Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le développement du culte liturgique de Saint-Joseph s'est fait lentement au cours des siècles pour atteindre son couronnement le 8 décembre 1870, jour où le pape Pie IX le proclama patron de l'Église universelle. Cette apothéose avait été prédite par le dominicain Isidore de Isolanis de Milan, en 1522. Il fut le premier qui fit une somme des dons de Saint-Joseph. Voici ce qu'il dit plus de 3 siècles avant la proclamation de Pie IX. Avant le jour du jugement, il arrivera que tous les peuples connaîtront, vénéreront et adoreront le nom du Seigneur, proclamant les grands bienfaits que Dieu nous a assurés en Saint-Joseph et qu'il a voulu tenir caché pendant longtemps. C'est pourquoi le nom de Saint-Joseph sera un gage d'innombrables bienfaits. On bâtira des temples et on célébrera des fêtes en son honneur. Les peuples lui offriront des vœux qu'ils accompliront. Car le Seigneur ouvrira aux fidèles les oreilles de l'intelligence et des hommes fameux scruteront les dons intérieurs de Dieu cachés en Saint-Joseph et trouveront là un trésor excellent. Le vicaire de Jésus-Christ, sur l'inspiration du Saint-Esprit, ordonnera que la fête de Saint-Joseph soit célébrée dans toutes les parties de l'Église militante. Ainsi, celui qui dans le ciel a toujours été au premier rang ne sera pas à un rang inférieur sur la terre. Mes frères, posons-nous cette question. D'où viennent les grandeurs de Saint-Joseph? Elles proviennent du choix que Dieu a fait de lui pour être, premièrement, l'époux de Marie et, deuxièmement, exercer la charge de père temporel de Jésus. Or, ceux que Dieu destine à une fonction, dit saint Thomas, il les y prépare d'avance, afin qu'ils soient aptes à la remplir. Donc, conclut saint François de Sales, il n'y a aucun doute que saint Joseph ait été doué de toutes les grâces et de tous les dons que méritait la charge que le Père éternel voulait lui donner. Pour mieux comprendre les grandeurs de saint Joseph, regardons d'abord ses relations avec le Verbe incarné. Si nous considérons les anges et les saints, aucun d'entre eux n'a eu cette grâce insigne d'être appelé Père de Jésus. Dieu n'a communiqué ce titre qu'à saint Joseph. Quel honneur, quelle joie pour saint Joseph d'être appelé non seulement Père de Jésus par ses compatriotes, mais aussi Père par Jésus lui-même. En effet, lors du recouvrement de Jésus au Temple, la Vierge Marie dit « Votre Père et moi vous cherchions tout affligés ». Isidore de Isolanis fait remarquer à ce sujet que Marie appelait Joseph son mari et Jésus l'appelait son Père. Le nom de son époux était familier à la Sainte Vierge, et le nom de Père était celui que le Christ donnait habituellement à saint Joseph. C'est pour se conformer à l'habitude de son fils qu'elle lui dit ces paroles. Les relations de saint Joseph avec Jésus étaient de tous les instants, et cela pendant 30 ans environ. Si les hommes ordinaires regardent comme un grand bien d'avoir des enfants distingués par leur noblesse de sentiment, le nombre et la qualité de leurs vertus, combien plus saint Joseph, sachant que Jésus était le Fils de Dieu, venu dans ce monde pour sauver les hommes, l'aima d'un amour au-dessus de toute imagination. Quelle joie pour saint Joseph de se dévouer à son service à tous les âges de sa vie, d'être attentif à tous les enseignements qu'il lui donnait par ses paroles, par ses actions. Jésus, lui, aimait Joseph d'un amour sans mesure, car il l'aimait en Dieu. Si saint Jean, le disciple que Jésus aimait, et qui a reposé sa tête sur son cœur en a été éclairé d'une manière extraordinaire. Combien plus Saint Joseph, de par son intimité de 30 ans avec le Verbe incarné, en a reçu de lumière, de grâce particulière, d'instruction secrète, au point qu'il aurait pu dire comme Saint Paul, « J'ai entendu des secrets divins dont il n'est pas permis aux hommes de parler. » La présence de Jésus agissait directement et sans obstacle sur le cœur de Saint Joseph. Elle était sa lumière, sa consolation, sa force. Elle déversait dans son âme admirablement disposée la surabondance de ses mérites et fit parvenir Saint Joseph au plus grand degré de sainteté après la Sainte Vierge. Voyons maintenant ses relations avec la Vierge Marie. Dieu choisit Saint Joseph pour être l'époux de Marie. Il fallait donc que Saint Joseph ressemblât à Marie en tout, c'est-à-dire, dit Saint Bernard, qu'il lui fût semblable pour les traits, le cœur, les dispositions, les habitudes, les vertus et la sainteté. La Sainte Famille étant le modèle parfait des familles, l'amour qui régnait entre Marie et Joseph devait être le plus grand de tous. Vous savez que le fondement de l'amour est la ressemblance. Or, il y avait entre Joseph et Marie le maximum de similitudes. Ils étaient tous les deux d'une grande beauté corporelle. Ils étaient tous les deux descendants de la noble famille de David. Ils avaient fait tous les deux vœux de virginité. Ils avaient été choisis tous les deux par Dieu pour donner une famille au Verbe incarné et se dévouer ensemble à l'œuvre de la rédemption. Joseph et Marie s'aimèrent donc d'un amour naturel incomparable, mais encore plus d'un amour surnaturel au contact du principe de la grâce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Marie étant pleine de grâce, Saint Joseph bénéficia de ce trésor qui lui appartenait en raison de son mariage, puisque tout ce qui appartient à l'épouse est à l'époux. Cet amour entre Marie et Joseph augmenta en raison de la vie commune, qui leur donna l'occasion de pratiquer la charité et toutes les vertus, par l'échange réciproque des bons offices et des bienfaits. C'est le propre des belles âmes de montrer à ceux qui leur rendent des services par leurs paroles et leurs actes l'affection que leur cœur éprouve. Or, Marie était la plus belle des âmes. C'est pourquoi elle éprouvait pour Saint Joseph, qui ne cessait de la servir, un amour qu'elle lui exprimait de toutes les manières. Avec quel zèle elle préparait les repas, vaquait aux soins du ménage, l'accueillait à son retour du travail. Il y avait entre eux une sainte compétition pour se rendre mutuellement des services. Et tout cela se faisait par amour de Jésus, qui était présent au milieu d'eux. Cet amour les unissait tellement que Saint Bernardin de Sienne n'hésite pas à dire qu'ils ne faisaient qu'un cœur, qu'une âme. Ils étaient tous deux dans un même esprit, une même affection, un même tout. Donc, le titre de patron de l'Église universelle, proclamé par Pie IX en 1870, est la conséquence de la sublime dignité que Dieu a accordée à Saint Joseph d'être, premièrement, l'époux de Marie et, deuxièmement, d'exercer la charge de père temporel de Jésus. Ce patronage était préfiguré par le Joseph de l'Ancien Testament, qui sauva son peuple de la famine en le nourrissant du blé de l'Égypte. Le songe qu'eut ce Joseph, dans lequel il voyait le soleil et la lune s'incliner pour l'adorer, s'applique parfaitement à la Sainte Famille, où Jésus, le soleil de justice, et Marie, belle comme la lune, sont soumis à l'autorité de Saint Joseph et lui offrent leurs hommages en se laissant guider et protéger par lui. Saint Joseph est donc le chef de la Sainte Famille. Or, l'Église est la Sainte Famille étendue. La paternité de Saint Joseph s'étend donc à toute l'Église, à tous ceux qui participent, ont participé et participeront à l'avenir aux fruits de la rédemption. Puisque le patronage de Saint Joseph s'étend à l'Église universelle, son efficacité ne connaît pas de limite. Quiconque s'adresse à lui est sûr d'être exaucé. C'est ce qu'atteste par expérience Sainte Thérèse d'Avila. En effet, dit-elle, Saint Joseph continue au ciel de commander à Jésus, et celui-ci exauce toutes les demandes que lui fait le Saint Patriarche. Si le patronage de Saint Joseph a été réservé pour les derniers temps, c'est en raison de la similitude de notre temps avec les débuts de l'Église. De même que Saint Joseph a protégé la mère et l'enfant des ennemis qui voulaient leur mort pour empêcher l'œuvre de la rédemption, de même, en ces derniers temps, Saint Joseph, patron de l'Église universelle, doit protéger l'Église de ceux qui veulent sa mort. C'est le patronage de Saint Joseph qui préparera le règne du Sacré-Cœur. Vous savez que le démon s'est servi de la France, fille aînée de l'Église, pour répandre par la révolution dans le monde entier le naturalisme et le matérialisme qui étouffent et écrasent la religion chrétienne, l'empêchant de répandre les grâces de la rédemption. Dieu se servira de la France pour rétablir toutes choses. Il est à remarquer qu'il n'existe que deux apparitions publiques de Saint Joseph dans le monde au cours de l'histoire. La première, c'est celle de Cotignac, en France, le 7 juin 1660. Et la deuxième, c'est celle de Fatima, en 1917. L'apparition de Cotignac est riche d'enseignements. Gaspard Ricard, un jeune berger de 22 ans, est épuisé de soif à la garde de ses troupeaux et se demande s'il aura la force de retourner le soir au village. Saint Joseph lui apparaît et lui demande d'enlever un rocher que 8 hommes forts n'arriveront pas à déplacer. Gaspard déplacera facilement le rocher sur l'ordre réitéré de Saint Joseph. Une eau abondante en sortira, venant étancher sa soif et celle de tout le troupeau. Elle apportera la guérison à une foule de malades dans toute la Provence et au-delà. Cette apparition toucha le cœur de Louis XIV, car il eut lieu le jour de son sacre, et que c'est cette année-là qu'il avait demandé son admission dans la confrérie des feuillants vouée à Saint Joseph. Il prononça à cette occasion cet engagement « Moi, Louis, prends et choisis le glorieux Saint Joseph pour mon patron et avocat, et prie Dieu de me faire la grâce de ne l'abandonner à jamais. » L'année qui suivit l'apparition de Cotignac, il ordonnera que la fête de Saint Joseph, le 19 mars, soit chômée dans tout le royaume. Mais il ne consacra pas son royaume à Saint Joseph, ce qui aurait certainement enlevé les obstacles à la consécration du royaume au Sacré-Cœur de Jésus, qui lui sera demandé par Sainte Marguerite Marie 15 ans plus tard. Si Dieu a permis cette apparition de Cotignac, ce n'était pas seulement pour étancher la soif d'un berger et de son troupeau, mais, s'appuyant sur ces faits, c'était un enseignement beaucoup plus profond. Gaspard représente le chef de la France. Son troupeau, ce sont les sujets de son royaume. Ils sont accablés par la soif, car les eaux de la grâce ont été obstruées par le gros rocher du naturalisme et du laïcisme répandu par la Révolution française. Les efforts des hommes sont impuissants pour l'enlever. C'est l'obéissance seule du chef de la nation à Saint-Joseph qui lui donnera la force d'enlever ce rocher. Alors les eaux de la grâce renouvelleront tout ce qui était desséché, guériront les maux provoqués par la Révolution, et ce bien s'étendra au-delà du royaume, c'est-à-dire au monde entier. Ce que Saint Joseph peut accomplir en tant que patron de l'Église, il peut l'accomplir en tant que patron des familles chrétiennes. En effet, celles-ci sont menacées par le milieu délétère dans lequel elles vivent et les lois sataniques qui veulent la détruire. Plus que jamais, Saint Joseph est le recours obligé pour protéger l'innocence des enfants, la chasteté des parents, les écoles où un enseignement catholique est dispensé. Alors, allons donc à Joseph avec confiance. Il a vaincu les obstacles sur terre. Maintenant qu'il est au ciel, tout-puissant sur le cœur de Jésus, il nous aidera à vaincre toutes les difficultés. En ce jour de sa fête, consacrons-nous à lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.